Voici mon exposé de novembre qui parlera des universités. Aristote avait noté que tous les hommes désiraient savoir. L'esprit de l'homme est fait pour connaître. Commentant cette phrase, le père Marie-Dominique Philippe ajoutait « Pour connaître quoi ? Ben tout. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. » Il est certain que le désir de scruter les rouages de cette magnifique machine qu'est la création est naturel, universel, et ce, dans tous les domaines, du plus simple au plus compliqué, du plus matériel au plus subtil. Après plusieurs siècles d'invasions et de guerres continues, la société était quelque peu apaisée au XIe siècle, et le Moyen-Âge, comme on l'appelle injustement, connut un grand développement intellectuel et technique. Des auteurs comme Jacques Herse et Régine Pernoud en ont longuement exposé les étapes. Mon petit dictionnaire qui est de 1963 comporte un tableau synoptique des découvertes scientifiques depuis la préhistoire à nos jours. C'est un tableau sur trois colonnes, une pour le Moyen-Orient et l'Afrique, une pour l'Extrême-Orient et une pour l'Europe. Pour le Moyen-Âge, la colonne Europe cite entre autres les cloches, les vitraux, les moulins à vent, les lunettes, le fer à cheval, le gouvernail des tambours à l'arrière des bateaux, les premiers canons, etc. Ce n'est vraiment pas mal. À la fin du Moyen-Âge, l'Europe avait une avance définitive sur les autres continents. Il n'est que de constater que, après 1450, les deux premières colonnes de ce tableau sont vides. Seule l'Europe fit avancer la science et la technique. Il faut évoquer la grande figure de Gerbert d'Aurillac, devenu pape sous le nom de Sylvestre II. Ce fut le pape de l'an 1000. C'était un grand érudit, un grand scientifique. C'est sous son égide, voire son inspiration, que naquit l'horloge à poids, beaucoup plus précise que la clepsydre pour rythmer les heures canoniales. Ce fut lui aussi qui introduisit le zéro dans notre numération. Ce signe qui a son origine aux Indes fut une véritable révolution. C'est un signe magique, sans valeur quand il est à gauche et d'une puissance sans égale quand il est à droite. Il nous semble naturel, mais il suffit d'essayer de faire une multiplication ou une simple addition avec des chiffres romains pour constater combien il simplifie la vie. J'avais fini de rédiger cet exposé lorsque j'ai retrouvé au fond de ma bibliothèque un livre signé Jean Gimpel, de mère anglaise et de père français, intitulé « La révolution industrielle au Moyen-Âge ». Cet ouvrage analyse en 250 pages le détail des progrès surprenants de cette époque. En plus de ce que j'ai signalé, il faut ajouter les lunettes et les lentilles optiques, la charrue qui retourne la terre, ce que ne faisait pas la verre, la technique de l'assolement et toutes les améliorations des moulins à eau et à vent, qui ont grandement facilité la disparition de l'esclavage. Ajoutons les débuts de la métallurgie du fer et de l'argent, celui de l'usage du charbon, le métier à tisser, etc. Ces progrès furent interrompus par quatre catastrophes. Premièrement, un refroidissement climatique important à partir de 1315, cause de plusieurs famines. Deuxièmement, les grands schismes, quand il y eut deux ou trois papes. Troisièmement, la guerre de Cent Ans. Quatrièmement, la peste noire qui, selon certains, supprima 30% de la population. Mais à la fin du 15e et du 16e siècle, on finit par tourner la page, mais cela ne doit pas nous faire oublier les performances des 12 et 13e siècles. Dans les arts aussi, l'avance de l'Europe était manifeste. La moindre église romane est nettement plus élaborée que les temples romains comme la maison carrée de Nîmes. Citons encore la musique. Le grégorien a pris son essor sous Charlemagne. Au 14e, Guillaume de Machaut donna à l'art européen une avance définitive avec la polyphonie, source de la musique actuelle, devenue universelle. Dans les hôtels japonais, on nous reçoit au son de Vivaldi. Un auteur du XIIIe siècle a comparé ceux qui propageaient la science à des chevaliers armés de pied en cap faisant la guerre à l'ignorance. Du Bellay a insinué que l'université sortit de l'esprit de Charlemagne comme Minerve du cerveau de Jupiter. L'essor des universités coïncidait avec la construction des cathédrales. À côté de chacune d'elles, il y avait une école dirigée par des chanoines. Les colâtres qui enseignaient les belles lettres et la philosophie et le théologal chargé de la théologie. Tous deux étaient sous la surveillance de l'évêque. Le terme « université » ne désignait pas l'ensemble des sciences, mais l'ensemble des écoliers et des professeurs, une corporation. L'esprit d'association est un des traits les plus caractéristiques du Moyen-Âge. Les corporations étaient très démocratiques, en ce sens qu'elles choisissaient leurs chefs et entendaient être libres et indépendantes. Notons cependant que cette démocratie n'existait qu'entre gens ayant une certaine compétence, et même une compétence certaine dans leur domaine. Les candidats n'étaient pas des bavards incompétents tentant de séduire une troupe d'ignorants. Les professeurs jouissaient de privilèges particuliers. Assez vite, le roi chercha à mettre son grain de sel là-dedans. L'université de Paris fut illustre dès ses débuts, dès Abélard, contemporain de Saint-Bernard. Elle sortit rapidement de son enceinte devenue trop étroite et se répandit dans ce que l'on appelle depuis le quartier latin. Les étudiants étaient divisés en quatre nations, France, Picardie, Normandie et Angleterre. Elle vit bientôt s'adjoindre une école de médecine près de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, puis une faculté de droit. Une université de base comprenait quatre facultés, la théologie, les arts, dont les étudiants s'appelaient les artiens, les arts qui avaient le trivium, grammaire, dialectique, rhétorique, et le quadrivium, arithmétique, géométrie, musique et astronomie, puis le droit et la médecine. Les professeurs enseignaient gratuitement les élèves pauvres. Ils recevaient des subsides de la part des étudiants riches. Plusieurs papes, comme Alexandre III, Innocent II et Grégoire IX, étaient des anciens. Le logement des étudiants était assuré, leurs livres étaient considérés comme outils de travail et à ce titre ne pouvaient être saisis par la justice. Plusieurs étaient écrits en arabe, non qu'ils fussent faits par des musulmans, il s'agissait de traductions faites par des Syriens au 5e et 6e siècle, bien avant la naissance du prophète. Un grand esprit de corps unissait les étudiants. Certes, ils avaient les défauts de leur âge, ils étaient souvent des trublions et se distinguaient par un mépris excessif des bourgeois. C'est l'orgueil de posséder quelque chose que les autres n'ont pas. Il y eut certes de mauvais sujets comme Villon, qui a laissé pourtant une œuvre de valeur. Mais l'ensemble a formé un solide terreau pour les élites, il est vrai, pour les élites à venir. Les professeurs étaient très considérés, notamment par l'Église qui choisissait ses dignitaires. Très honorés, ils étaient bien rétribués et parfois très sûrs d'eux. Au cours d'une discussion avec Pierre de Corbeil, le pape lui dit « Tu me résistes, moi qui t'ai fait évêque ». Ce à quoi elle répondit « Et moi je t'ai fait en formant ton intelligence ». Il ne se prenait pas pour rien. Pour Guillaume de Bourbon, l'université de Paris était la source même de la science, le candélabre qui éclaire le monde, l'institutrice de l'univers. Il est donc certain que, contrairement à ce qui a été raconté pendant des siècles, le Moyen-Âge fut une période de très haute civilisation qui, outre les progrès techniques déjà mentionnés, fut celle de la disparition de l'esclavage. Il fallut attendre l'arrivée des financiers pour le voir rétablir au XVIIe siècle et dans des contrées lointaines. Ce fut aussi le siècle de la promotion de la femme, même si les romans de chevalerie versifiaient surtout sur l'amour adultérin jugé plus spontané. Mais il y eut aussi de charmantes bleuettes comme Aucassin et Nicolette, où l'on vit l'apparition de la jeune amoureuse. Les reines étaient sacrées comme des rois, tenant parfois le premier rôle, comme Blanche de Cassis ou Aliénor d'Aquitaine, et prenant le relais de leur mari quand ils étaient à la guerre ou à la croisade. Les saintes étaient très honorées, et la Vierge Marie est reine des anges. Toute cette grandeur médiévale est décrite et célébrée dans des ouvrages récents dont j'ai déjà parlé, comme Le Moyen-Âge, une imposture de Jacques Herz, et pour en finir avec Le Moyen-Âge de Régine Pernoud. Ce n'est qu'après le siècle dit à tort des Lumières et l'époque napoléonienne que la femme fut considérée comme une mineure. Pendant leur séjour à l'université, on exigeait des étudiants un travail régulier, sous peine de voir leur examen reporté. Ils se levaient de grand matin, remarquant toutefois qu'à l'époque il n'y avait pas de changement d'heure. Lorsqu'on lit, non sans un frémissement admiratif, que tel saint homme se levait à 4 heures du matin, cela correspondait pour nous à 6 heures pendant l'heure d'été. C'est quand même moins héroïque. Les artiens, ceux qui n'étaient pas inscrits en théologie, se réunissaient dans la grande salle après le lever du soleil. On écoutait le maître dans la matinée, on commentait le soir ce qu'on avait entendu le matin. Les élèves étaient formés à la discussion entre eux. On les appelait coqs ou ergoteurs, ceux qui soutenaient la lutte. On travaillait beaucoup. Ils n'avaient pas de vacances à proprement parler. Mais les écoliers étaient libres le jeudi et les nombreux jours de fêtes ecclésiastiques, ce qui représentait plus de 90 jours dans l'année. La Fontaine a cité le savetier se plaignant à M. le curé de quelques nouveaux saints charge toujours son trône. Les études duraient 4 ans, au bout desquels l'étudiant soutenait une thèse avant de recevoir le baccalauréat, son premier grade. Comme bachelier, il était admis à enseigner avec le professeur. Il développait le soir les points laissés de côté par le maître. Le bachelier pouvait ensuite demander à passer une licence qui lui donnait le droit d'enseigner avec autorité. Après avoir passé une thèse très sérieuse, il recevait le bonnet de docteur. L'enseignement était surveillé par les évêques. Le pape Innocent II envoya même un plan d'études. Si l'étude des lettres et la grammaire était une priorité, les sciences n'étaient pas méprisées, on les considérait comme les planches pour aller à la théologie. Le but de la science restait la foi. Les étudiants pouvaient aller à la messe tous les jours. La Sainte Vierge unissait les jeunes gens dans plusieurs congrégations. Assez tôt, quelques collèges furent fondés grâce aux dons d'illustres personnages. Les étudiants sans ressources y étaient logés et entretenus gratuitement. L'instruction gratuite ne date pas du XXe siècle. La plus remarquable fut la Sorbonne fondée par Robert de Sorbon, confesseur de Saint-Louis. On l'appelait l'outil de la conscience du roi. La première maison était située rue Casse-Gueule. Les noms pittoresques ne manquaient pas dans le vieux Paris. Le gibet était dans la rue de l'Arbre Sec. La rue fréquentée par les religieuses était la rue Trousse-Nonain, devenue la rue Trans-Nonain. Celle des maisons de tolérance, la rue de la Pute qui muse, devenue la rue du Petit Musc. La Sorbonne reçut plus tard l'école de théologie du cloître Notre-Dame. Un autre collège célèbre fut le collège d'Harcourt, devenu aujourd'hui le lycée Saint-Louis. La scolastique était une discipline un peu raide, mais excellente, tant qu'elle ne dégénérait pas en dogmatique momifiée. Le Moyen-Âge a tout rapporté à la théologie, cette science qui apprend à connaître Dieu afin de le bénir, le remercier et de le louer. Loin d'être une époque obscurantiste, le Moyen-Âge mettait les choses à leur place. On commence aujourd'hui à prendre conscience que Dieu étant chassé, on ne s'attache plus au savoir que dans l'optique d'éventuels produits financiers. L'argent est devenu roi. Notre société est en train d'en mourir.